I watched sea beams glitter in the dark.
Maybe one of us saw too much. You're safer here than any place else.
Now relax. Close your eyes.
Just listen.
Bonjour et bienvenue dans Année Lumière, l'émission qui parle de cinéma une année à la fois, en partenariat avec le magazine Cinématiseur et Tsugi Radio. C'est comme toujours Thibaut qui vous parle et on se retrouve à nouveau pour discuter d'une année de ciné en particulier avec un invité. Et ce mois-ci, mon invité est journaliste ciné et série pour la chaîne OCS, mais vous la connaissez sans doute mieux grâce à YouTube. Elle y raconte les petites et grandes histoires du 7e art et clame son amour des films et des chiens aussi, sous son pseudonyme, La Manie du Cinéma. Elle, c'est Mélanie Toubeau. Salut Mélanie.
Salut, j'espérais vraiment qu'il y ait un moment en rapport avec les chiens et je suis ravie de cette introduction.
Il fallait qu'on case effectivement ton amour des toutous. Bon, en tout cas, je suis très très heureux de t'avoir dans Année Lumière.
Pareillement.
Cet épisode est un peu spécial et très spécial même pour débuter cette année 2021. On va discuter aujourd'hui du cinéma et des films non pas du 21e ni même du 20e, mais bien du 19e siècle. Et oui, le cinéma ayant plus de 125 ans, il était normal qu'Année Lumière aille faire un petit tour dans ses premières années du cinéma, si mystérieuse mais pas si lointaine. Une période évidemment moins chargée et dont beaucoup de films ont aujourd'hui malheureusement disparu. Au programme, la tragédie qui a failli tuer le cinéma, la naissance de l'un des plus grands studios au monde, la toute première réalisatrice de l'histoire, le tout premier long métrage, la reine d'Angleterre, des rayons X et même des saucisses faites avec des chats. Bref, aujourd'hui, on discute de l'année 1897.
De l'homme trouble l'homme, froufrou, froufrou, certainement la femme séduit surtout par son gentil froufrou.
Il vous dit forcément quelque chose cet air de musique, on écoutait ça en 1897, froufrou. Une chanson que les spectateurs pouvaient alors entendre chanter par Juliette Méhali au Théâtre des Variétés à Paris. 1897, c'est aussi l'année de la guerre des 30 jours entre la Turquie et la Grèce et celle de l'invention du moteur diesel par l'allemand Rudolf Diesel. En France, le président, c'est encore Félix Faure, mais si, rappelez-vous, celui qui mourra en plein mandat et en plein ébat à l'Élysée dans les bras de sa maîtresse. Au même moment, en Amérique, 100 000 personnes se précipitent dans le nord du Canada suite à la découverte d'un filon d'or, c'est la fameuse ruée vers l'or du Klondike. La même année, les théâtres découvrent Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand sur les planches et le roman Dracula de Bram Stoker arrive dans les librairies avant de connaître une tonne d'adaptations au cinéma. Le cinéma, justement, en 1897, on est seulement 2 ans après la présentation par les Frères Lumière de leur cinématographe. Et c'est encore une curiosité, les auditeurs ne le savent pas forcément, mais c'est l'invité qui choisit l'année dont on parle à chaque émission. Et toi, pourquoi Mélanie, pourquoi cette période du cinéma te fascine comme
ça? En fait, c'est vraiment les... J'adore le cinéma, on est là entre cinéphiles de toute façon. Mais c'est vrai que l'histoire du cinéma, de comment en fait cet art a été créé, des gens qui ont fait que maintenant on va au cinéma pour rêver, bah, ça me passionne en fait. C'est comment ces petites mains, comment ces imaginations sont arrivées en fait à faire ça.
Là où il n'y avait rien du tout.
Où il n'y avait absolument rien. C'est juste trop bien.
C'est une belle année.
Voilà, c'est une année où en fait il commence à se passer des choses et effectivement de très grandes choses et surtout de très grands noms.
Et on va en parler justement de cette belle année 1897. Alors du coup, cette année-là, les spectateurs vont alors découvrir le cinéma dans des petites salles et voir principalement ce qu'on appelle des vues, c'est-à-dire de petites scènes de la vie quotidienne de moins d'une minute filmées en un seul plan. Le public découvre ainsi le monde grâce aux films des Frères Lumière notamment et d'autres réalisateurs. Un train qui rentre en gare, les chutes du Niagara, une bataille de boules de neige dans les rues de Lyon, des escrimeurs japonais ou encore le jubilé de la reine Victoria en Angleterre. Ces événements-là sont filmés et montrés aux spectateurs dans cette petite salle de cinéma toute jeune. Le public peut aussi se plonger dans le monde féerique de Georges Méliès qui lui aussi commence à faire des films, dans les tableaux comiques de George Albert Smith ou encore assister au tout premier long métrage de l'histoire, un combat de boxe filmé en temps réel d'une durée de 1h40. Et pourtant, cette année-là, cette industrie naissante, cette révolution totale du spectacle qu'est le cinéma, va être la cause d'une tragédie qui a failli tout arrêter et tuer littéralement le 7e art dans l'œuf, un drame qui s'est déroulé en plein Paris et qui a causé la mort de plus de 120 personnes, l'incendie du bazar de la Charité.
Nous sommes arrivés à 4h15 à peu près et nous devions aller à cette fameuse représentation de cinématographe, ce qui était une curiosité à l'époque. Et nous sommes arrivés devant, enfin, devant cette salle de cinéma qui se trouvait en entrant à gauche.
C'est ça, il y avait une salle de cinéma à l'intérieur
de ce hall. Et il y avait à la porte de ce cinéma un monsieur très bien, très élégant, qui agitait une sonnette en cuivre pour dire que la séance allait commencer. Nous arrivons presque devant l'entrée de ce cinéma et j'entends « boum ». Dans ma vie d'enfant, j'ai dit « tiens, la fête commence ». C'était l'explosion.
Un incendie du Bazar de la Charité qui se déroule le 4 mai 1897 à Paris. Alors, qu'est-ce que le Bazar de la Charité et quel rapport avec le cinéma ? Eh bien, justement, on va en parler. Alors, avant d'en parler, avant d'en discuter ensemble, Mélanie, on va juste faire un petit peu un contexte. Un bazar, pour le rappeler à nos auditeurs, qu'est-ce que c'était ? Ben, c'était, à l'époque, en tout cas, un lieu où se rendaient les gens fortunés ou la bourgeoisie, un lieu très prisé en tout cas par cette catégorie de population, pour acheter des objets d'art. C'est un endroit où il y avait des objets d'art, de valeur, d'artisanat assez précieux, etc., etc. Une sorte de brocante de luxe pour la belle société, et donc très très populaire à la fin du 19e. Et ce bazar de la Charité se trouve, lui, 15 rue Jean Goujon, qui est dans le 8e arrondissement de Paris, dans un quartier qu'on appelle le quartier François 1er, qui est un peu coincé entre, d'un côté, les Champs-Élysées au nord, le Grand Palais à l'est et la Seine au sud. Et dans ce bazar de la Charité, ce bazar, c'est un long bâtiment rectangulaire de 80 mètres de long sur 15 mètres de large, et qui est censé être un bâtiment temporaire, on va dire. Il est permanent, mais il est temporaire, c'est-à-dire qu'il est en bois de piètre qualité véritablement. Il est là pour accueillir effectivement des événements de manière sporadique, mais il est censé être temporaire, ce bâtiment-là. Et donc, ce mardi 4 mai 1897, il y a 7 ventes de bienfaisance du Bazar de la Charité, où dans cette vente, pendant cette semaine-là, vont se dérouler des invités célèbres de la bourgeoisie, de l'aristocratie, du clergé, etc., etc., même de l'aristocratie européenne, puisqu'il y aura la duchesse d'Alençon, qui est donc la sœur de l'impératrice Sissi, la fameuse impératrice Sissi. Imaginez, on a reproduit dans cet endroit où il y a donc une sorte de brocante de luxe, on a reproduit une rue du Moyen-Âge. Du coup, il y a plein de petits stands comme ça qui ont été décorés avec des teintures, des étoffes, des décorations du type Moyen-Âge, des trompe-l'œil, avec, voilà, comme des stands, comme si on était au 16e, 15e siècle. Et donc, il y a plein de stands dans ce grand bâtiment. Et au plafond, pour cacher la structure légère en bois, qui est un bois vraiment de piètre qualité, on a mis ce qu'on appelle un vélum. Alors, un vélum, c'est une grande pièce de tissu tendu, qui fait un faux toit, on va dire, et qui a été recouvert de goudron, élément très important. Et dans ce bâtiment-là, en plus de, d'avoir cette vente, cette brocante, et de générer de l'argent pour la vente de bienfaisance, il y avait aussi quelque chose d'assez exceptionnel à l'époque, qui était une présentation, un petit espace où on présentait le nouveau cinématographe Lumière, cette nouvelle attraction, on va dire, cette curiosité excitante. Dans une petite salle de cinéma, dans cet espace-là, il y avait comme ça une projection de film qui était prévue. Et pourtant, il va se passer quelque chose de dramatique, et le cinéma va être la cause de cet événement dramatique, de cet incendie du Bazar de la Charité. Mélanie, qu'est-ce qui s'est passé ce 4 mai 1897 au Bazar de la Charité à Paris ?
Comme tu le disais, il y avait cette petite salle qui était réservée au cinématographe. En fait, c'était un des opérateurs des Frères Lumière, M. Bellac, qui, à 16h30 précise, en fait, pour faire fonctionner le cinématographe, il y avait besoin d'une lumière, d'une lampe, qui marchait grâce à de l'éther. Sauf que l'éther, alors vous n'avez peut-être pas fait physique appliquée, mais c'est pas ouf niveau sécurité, et surtout c'est très inflammable.
Une sorte d'alcool, véritablement.
Voilà, ouais. C'est ça. Pour allumer la lampe, il faut craquer une allumette, et en fait ces fameuses vapeurs d'éther ont pris feu. En fait, comme tu le disais, tout était en bois. Niveau normes de sécurité, on était vraiment classe F, G, X,
ah oui,
Z.
C'était pas ouf.
Voilà. Et en fait, tout a pris feu très, très rapidement avec, comme tu dis, le toit qui était en goudron.
C'est-à-dire que, en fait, le projectionniste, avant de lancer une séance, il se dit « Ah bah tiens, il n'y a pas assez d'éther dans ma lampe pour faire fonctionner ma lampe, donc je vais re-remplir la... »
Voilà, il faut la re-remplir au fur et à mesure parce que ça se vide forcément. Et en fait,
pour y voir plus clair, je crois, il ne voit pas bien ce qu'il est en train de faire, il craque une allumette.
C'est ça, et pour pouvoir allumer la lampe. Et en fait, malheureusement, avec les vapeurs d'éther, ça fait une explosion, justement, comme raconte... la témoin, et tout explose d'un coup, vu qu'absolument tout autour d'eux était soit en tissu, soit en bois.
Ouais.
Et ce qui est assez fou, c'est qu'en fait, ça a pris très peu de temps pour que tout soit incendié. C'est une combustion quasi spontanée, sachant aussi que la pellicule de l'époque, elle était faite en nitrate de cellulose, qui est pareil, un matériel qui est extrêmement inflammable. Ouais. J'ai eu l'occasion de pouvoir en voir flamber. C'est une combustion quasi instantanée.
Ce qu'on appelait le film flamme à l'époque.
Voilà,
qui
exactement.
Pouvait brûler, prenait feu rapidement et qui pouvait même brûler sous l'eau.
Exactement.
La lampe de terre prend feu, enflamme le projecteur, tout prend
explose.
Feu, ça part dans tous
et
les sens.
Et donc ça commence à aller sur tous les stands. Il y avait donc 1200 personnes sur place, quasiment que des femmes. Il
ouais.
Faut rappeler qu'au 19e siècle, les femmes ne se trimbalaient pas en jeans.
Ah non.
Elles étaient avec des très grosses robes qui étaient également inflammables. Ouais. Et donc en fait, ça s'est fait. Ça fait un effet domino et plus tout le monde qui essaye d'aller vers les sorties, en fait, ça a été...
En très peu de temps, il me semble qu'en 15 minutes, c'était terminé.
En 15 minutes,
il faut imaginer
terminé.
Que dans ce bazar-là, on l'a dit, 80 mètres sur 15, imaginez, hein, même pas 100 mètres, il y a 1000 personnes.
C'est ça.
Et là, soudainement, il y a le feu et 1000 personnes, il faut qu'elles évacuent. Et bah, comme tu l'as dit, c'est pas un bâtiment qui est très, très aux normes et les normes d'incendie, bah, à l'époque, on les connaît pas.
Exactement.
Et pour avoir une idée de comment ça s'est passé véritablement, bah, on va continuer le témoignage de cette dame-là qu'on a entendue au début, qui nous raconte exactement et comment cette panique et cette tragédie a débuté.
Et alors je lève le nez et je vois des flammes, mais immédiates et prenant, vous savez, une vitesse extraordinaire, filant de ce gauche à droite, terriblement vite. J'ai reçu une goutte enflammée. Cette goutte enflammée a glissé sur la charlotte, m'a enflammé les cheveux que je portais longs, a abîmé ma robe, m'a fait d'abord très mal, m'a donné une peur horrible. La porte d'entrée, dont je n'étais pas très éloignée, était entrouverte. J'ai eu la force de m'arracher au bras de Madame Legrand et je suis sortie une des premières en flammes.
Cette dame-là, elle nous parle, elle a 10 ans, elle est toute jeune et effectivement, comme tu disais, bah, c'est de la haute société, donc tout le monde est très bien habillé,
c'est
avec des grands cheveux longs, des grandes coiffures. Et en plus, on l'a dit avant, dans ce bâtiment du bazar de la charité, qui prend feu, il y a ce vélum en haut, enfin, ce drap tendu qui fait office de toit, qui est goudronné, parce que du coup, pour rendre le bâtiment plus beau, ils l'ont goudronné. Et donc ce goudron prend feu et ça fait des gouttes de feu qui tombe sur les gens et qui enflamme les gens qui deviennent des torches humaines et dominos et c'est terminé. Il y a très peu de normes de sécurité. Donc déjà, il y a des portes qui s'ouvrent vers l'intérieur,
c'est ça. En fait, il y a eu un gros problème au niveau des portes. Déjà parce que tout le monde fonçait dessus pour pouvoir sortir.
Ce qui
faisait bouchon, en fait, très très rapidement. Et en fait, les gens étaient coincés dans le cadre de la porte. Il n'y en avait pas beaucoup, surtout, en fait. Il y en avait aux extrémités, mais il n'y avait pas énormément de portes. Il y a un témoignage aussi... Il racontait parmi les survivants qu'il y avait dans un des endroits, il y avait une sorte de petite fenêtre basse et que les gens essayaient de s'enfuir par là et que juste derrière, en fait, il y avait, je crois que c'était les cuisines d'un restaurant et qu'en fait, c'était les plongeurs qui venaient aider en fait, les gens
les
à s'en sortir.
Ouais.
Voilà, et qui sont arrivés à sauver quand même pas mal de gens grâce à ça, je crois quelques dizaines, un truc comme ça. Et en fait, il y avait quasiment pas de sortie, tout simplement. Et puis, vu que tout s'effondrait, bah, ça barrait en fait, le chemin au fur et à mesure. Surtout, effectivement, bah, pour ces dames qui étaient là avec ces très grandes robes, en fait, qui étaient alourdies tout de suite par leurs robes. Bah, par exemple, tu disais effectivement qu'il y avait la duchesse d'Alençon qui était présente, donc la sœur de Sissi. Il y a un témoignage qui dit que elle était accompagnée donc, de ces dames de compagnie. Une d'elles, elle lui aurait dit... je vais aider les gens derrière, sortez, sortez. Et donc la duchesse d'Alençon qui retourne à l'intérieur du bazar pour aider des femmes dans le besoin et qui au final n'en sortira jamais.
Il faut imaginer aussi que comme c'est un bâtiment qui est censé représenter une rue du Moyen-Âge de manière pittoresque, bah, du coup il y a des trompe-l'œil et il y a même des parties du bâtiment où il y a des trompe-l'œil avec des fausses portes pour faire genre c'est des portes du Moyen-Âge et des gens se précipitent contre ces murs de trompe-l'œil pensant que c'est des vraies portes et se retrouvent dans des pris au piège véritablement, c'est parce ça. Que du coup ils sont, c'est un cul-de-sac et du coup ils mourront là. Et Et encore une fois, en 15 minutes, ça va très 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 vite. 125 à 130 victimes, le chiffre, on peut avoir différents chiffres, mais en gros, c'est entre 125 et 130 victimes sur 1000-1200 personnes. Donc, beaucoup donc, de gens de l'aristocratie, donc c'est un drame qui va toucher certes la société française, parce que ben, c'est exceptionnel à l'époque d'avoir un drame à autant de victimes, mais en plus l'aristocratie mondiale, européenne, directement, donc qui va toucher toutes les strates de la société. Et surtout, donc tu l'as dit, sur 125 ou 130 victimes, il n'y a que 5-6 hommes.
C'est en fait,
et c'est surtout beaucoup de femmes.
C'est ça, 118 femmes qui ont identifié, et des enfants évidemment.
Enfin, et des enfants, beaucoup
d'enfants. Voilà, il y a eu beaucoup d'enfants, mais c'est vrai que c'est surtout... On va dire que c'est un peu comme le Titanic, c'est qu'on a quand même voulu mettre les enfants et les femmes d'abord, sauf que bah, les femmes n'ont pas pu en fait sortir toutes en premier.
Pourquoi il y avait autant de femmes C'est parce qu'il y avait autant de femmes à ce moment-là dans le bazar de la charité.
Mais c'est parce qu'en fait, un événement comme ça à cette époque-là, du caritatif, c'est quelque chose pour les femmes en fait.
Oui,
elles travaillent pas. C'est pas encore une époque où les femmes travaillent beaucoup et surtout dans l'aristocratie, elles travaillent pas du tout. Et donc effectivement, là, c'était un rassemblement où elles se retrouvaient toutes, où effectivement il y a du m'as-tu vu aussi. Enfin, c'était un événement où il fallait aller.
Une tragédie donc nationale, tragédie mondiale, du coup qui met directement en cause le cinéma, le cinématographe récent. Oui. Est-ce que le cinéma a été tout de suite accusé ? Comment cette tragédie-là a changé le cinéma
Bah, comme tu l'as dit, c'était un rassemblement qui était religieux. Et en fait, justement, tu as beaucoup de théologistes qui ont un peu ironisé sur la fabrication, justement, de cette nouvelle machine à montrer des images, en disant que voilà, bah, la conquête de la science est vaine si elle n'est pas associée à celle de Dieu. Et en fait, ils voyaient vraiment le cinématographe un peu comme un fléau envoyé de là-haut.
c'est le Dieu qui a choisi de brûler
ça.
Les terres. Et de...
C'est de se dire, mon Dieu, cette boîte permet de voir des images. Dieu n'a pas voulu ça. Et ben, il a envoyé son fléau pour l'arrêter. Et c'est vrai que sur le moment, il y avait quand même cet engouement autour de cette idée-là de... C'est quand même bizarre que ça soit le cinéma, effectivement, ces vapeurs d'éther qui sortent du cinématographe, qui ont pris feu... et qui ont tué autant de monde. Donc il y a eu une sorte de petite cause à effet qui a beaucoup effrayé la communauté à ce moment-là. Mmh. Les grands studios de l'époque, Léon Gaumont, Pathé, même Méliès, ils ont été inquiétés. Il y avait des grands textes qui étaient écrits contre le cinématographe, justement pour dire que c'était peut-être pas une très bonne idée de vouloir capter des images, en fait.
Ouais. Puis il y a ce côté, en fait, où le cinéma est passé d'objet de curiosité à objet de peur aussi. Maintenant, on pouvait aller... Les gens, ils allaient en salle pour voir des films qui étaient censés les amuser. Maintenant, ils disent, en fait, je peux mourir, en fait. Il peut se passer la même chose qu'au bazar de la charité. Donc, le cinéma n'est plus devenu seulement un objet de fascination, mais aussi un objet de peur. Et effectivement, l'industrie cinématographique est toute jeune, bousculée par ce drame, par cette tragédie du bazar de la charité. Et du coup, j'ai lu que ça avait forcé... une réglementation sur le cinéma. Il n'y avait pas trop de réglementation et le bazar de la charité a accéléré ça.
Jusque-là, tout le monde, tous les montreurs d'images dans les foires ou même dans les théâtres qui devenaient après des cinémas pouvaient avoir justement la machine pour pouvoir montrer des images. Mais à partir en fait, de ce moment-là, on a commencé en fait, à créer des systèmes un peu coupe-feu, sachant qu'effectivement, la combustion à cause de l'éther ou de la pellicule en nitrate était possible. Donc en fait, ils ont commencé à réfléchir à des systèmes coupe-feu, comme par exemple des cabanes isolées en fait pour le projectionniste, dans lequel on mettait l'appareil. Il y avait juste l'appareil de projection et dans une cabine.
Avec le projectionniste.
Voilà, avec le projectionniste, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui la fasse marcher.
Séparé de la salle.
Voilà, et il y a juste la petite ouverture pour que l'image passe au milieu, mais au moins maintenant, ça permettait un peu de contenir.
Donc le projecteur, s'il prend feu, il y a juste le projectionniste qui meurt.
Voilà,
c'est
ça. Il y avait aussi, ils ont commencé à mettre à côté en fait des appareils de projection, des bâches imbibées d'eau à jeter sur l'appareil s'il s'enflammait. Ou alors, juste à côté également, des sacs remplis de suie humide, où en fait, si la bobine prenait combustion, on pouvait la jeter dedans directement.
Ouais.
Parce qu'effectivement, comme tu dis, la pellicule de nitrate de cellulose continue un petit peu de flamber, même sous l'eau, tellement c'est impressionnant. Ils ont commencé enfin à se rendre compte qu'il fallait mettre des normes. En fait, il fallait juste créer un système pour que ça n'arrive plus jamais.
Autour du cinéma cinéma. Dans les espaces, parce qu'il faut rappeler que le cinéma à l'époque, il n'y a pas encore vraiment de salle de cinéma dédiée. Le cinéma est un art itinérant qui va aller dans un théâtre, donc des endroits qui sont faits pour d'autres choses, mais tu n'as pas de salle de cinéma. Tragédie là, va effectivement, comme tu l'as dit, poussé à une réglementation autour du cinéma, certes, mais aussi autour des lieux publics.
C'est ça, du lieu de spectacle en général. Voilà. L'histoire de l'incendie du Bazar de la Charité, c'est horrible à dire, mais en fait, ça a permis ensuite vraiment de créer des normes qui sont encore actives maintenant. Et ce qui ont fait que le cinéma, en fait, a pu aussi, ça a été justement de la part des studios, ça a été aussi une preuve de bonne volonté de se dire, bon, voilà, il y a eu ça, mais maintenant, nous, on veut que notre art continue, donc on va tout faire pour que ça puisse continuer.
Et est-ce que le cinéma, suite à cette tragédie-là et suite, du coup, peut-être à la peur qu'il y avait autour de là, est-ce qu'à un moment donné, il a failli disparaître ou être considéré comme un loisir dangereux et du coup être mis un peu au banc ou
Alors, il y a eu des petites baisses de fréquentation dans les salles à ces époques-là, quand on voit effectivement, bon, on n'a pas de chiffres, mais quand on a des témoignages de Léon Gaumont, ce genre de choses, oui, ça a fait une baisse, les gens avaient un peu plus peur.
Et l'année suivante, ils sont retournés au cinéma.
Mais même pas quelques semaines, quelques mois après, parce que c'est tellement, il y a eu tellement un engouement sur cette nouvelle création. Les gens allaient revoir et revoir les mêmes films en boucle tellement ça les faisait rêver. Effectivement, il y a eu un incendie, il y a eu un désastre monstrueux, mais...
La fascination a pris le pas sur l'horreur, on va dire, du drame. D'ailleurs, si vous voulez directement aller sur les lieux de l'incendie du Bazar de la Charité, vous ne trouverez plus le bâtiment du Bazar de la Charité qui, du coup, a été réduit en cendres en quelques minutes, rappelons-le. Mais vous trouverez un monument, une église, une chapelle commémorant à cet endroit précis les victimes du Bazar de la Charité,
ça,
avec la liste
plaque.
De toutes les victimes, effectivement. Et vous pourrez même rentrer dedans et vous avez, du coup, toutes les victimes et même un beau monument pour la Duchesse d'Alençon en particulier. Pour les gens qui seraient intéressés par cette pellicule nitrate, ce film flamme dont on parle là dans ce premier thème, je vous conseille un ouvrage qui s'appelle « This film is dangerous » qui est du coup centré autour de ce film nitrate. Dans ce livre-là que je vous conseille, « This film is dangerous », il y a une citation qui nous racontait un petit peu comment les gens voyaient le cinéma à l'époque, cette aura un peu dangereuse au-dessus de la tête. Les gens n'étaient pas complaisants avec le nitrate, mais ils reconnaissaient que c'était un élément nécessaire de la civilisation contemporaine, comme le gaz de la cuisinière ou l'essence du réservoir. Il avait besoin d'être traité avec respect, mais pas avec paranoïa. Donc tu vois, il y avait vraiment cette situation de l'époque où les gens, en fait, ils étaient bien conscients que le nitrate, que le cinéma avait cette dimension peut-être un petit peu flippante de il peut se passer quelque chose, mais du coup, il y avait, c'est comme l'essence dans le réservoir. Donc il y avait, je trouvais cette citation assez intéressante. Est-ce que tu aurais, toi, quelque chose à rajouter dans ce thème-là?
Je ne l'ai pas vu, mais je sais qu'il y a une série qui est sortie l'année dernière sur le Bazar de la Charité avec Audrey Fleurot.
Tout à fait.
Ma mère m'a dit que c'était bien.
Qui s'appelle Le Bazar de la Charité, d'ailleurs.
Mais par contre, il paraît que ça ne tourne pas énormément autour du fait que ça soit le cinéma. Il paraît que ce n'est même pas beaucoup montré dedans, mais en tout cas, il y a quand même des images d'archives, il me semble. Enfin, en tout cas, ils ont pris des images d'archives. Donc si vous avez envie de voir entre guillemets une adaptation moderne de ce fait historique, la série, en plus il y a Audrey Fleurot, c'est toujours sympa.
Voilà ce qui conclut parfaitement, on va dire, ce premier thème de cette année 1897, un thème qui a tourné donc autour du Bazar de la Charité et cette tragédie déclenchée par le cinéma tout jeune, tout nouveau. Vous êtes toujours en train d'écouter Année Lumière, on est toujours en train de parler de 1897 avec Mélanie Toubeau. Et on s'en va doucement vers le second thème de l'émission.
À ce moment-là, on continuait à prendre dans les rues des scènes de rue, des petites choses arrivées en gare, etc. Et moi, j'étais fille de libraire. Et j'adorais la lecture, j'avais beaucoup lu, j'avais fait un petit peu de théâtre d'amateur. Et enfin, il me semblait qu'on pouvait faire mieux. Et j'ai proposé à M. Gaumont de faire quelques scènes de cinéma. Il m'a dit, oui, c'est une affaire de jeune fille, en effet. Eh bien, mon Dieu, vous pouvez essayer, mais à une condition, c'est que votre courrier n'en souffre pas.
Voilà, il faudrait qu'effectivement votre métier, votre courrier n'en souffre pas. Cette voix, c'est celle d'Alice Guy, une réalisatrice dont vous avez peut-être effectivement déjà entendu parler, qui va être au cœur de notre second thème, puisque cette réalisatrice, cette femme, travaille à l'époque, en 1897, pour une société, qui est une société française, qui fabrique alors à l'époque des lampes et des appareils photo. Et en 97, cette société va se diversifier officiellement dans la production de films, va créer des films qu'ils vont offrir avec leurs appareils qu'ils commercialisent. Et c'est une activité que cette société pratique encore en 2020, encore en 2021. Cette société, c'est Gaumont, tout simplement. C'est la société créée par Léon Gaumont en 1895. Et c'est tout simplement la plus ancienne société de production de films au monde, Cocorico. Elle est française. Rappelons-le, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, les quatre plus grosses sociétés de production de films sont alors la Edison Company de Thomas Edison, qui créait déjà des films en 1891, la Starfilm de Georges Méliès, qui est un peu le James Cameron de l'époque, Pathé Film de Charles Pathé et Gaumont de Léon Gaumont, et avec la Société des Frères Lumière. Mais il faut rappeler que la Société des Frères Lumière, en plus de ces quatre grosses sociétés de films, les Frères Lumière arrêtent surtout leur production de films dans les années 1905-1908, donc ils sont surtout là au début, et puis dès qu'ils voient que ça devient une industrie, on va dire, du divertissement, eux, scientifiques, se retirent un petit peu de la danse, et donc ils sont rapidement plus trop là. Et du coup, on parle effectivement de Pathé, on parle de Gaumont. Mélanie, toi, t'es MK2 UGC ou Pathé Gaumont en carte cinéma alors ?
J'avoue que moi je suis UGC MK2 en carte ciné, mais il y a de très beaux ciné Pathé et Gaumont. Justement, on est juste à côté, là où on enregistre, du Pathé La Villette,
voilà,
qui est un très très beau cinéma. J'ai mes petites préférences, mais par contre, historiquement, oui, j'aime bien Gaumont, on va pas se mentir.
Et donc, dans cette société Gaumont, en 1895, 96, 97, travaille une dame dont on a entendu la voix il y a quelques minutes, une personne qui va faire de Gaumont le studio pionnier qu'il est aujourd'hui, et qui a été un peu la moitié créative de l'industriel Léon Gaumont, l'incarnation plus de l'esprit des premiers films Gaumont, hein, parce qu'évidemment c'est bien de faire une société qui vend des appareils, mais si les films derrière sont juste des vues sans âme, ça n'a pas tellement d'importance. Par contre, cette personne-là va donner toute son âme à ses premiers films Gaumont, et cette personne, elle s'appelle Alice Guy Blaché. On va commencer tout simplement par le commencement. Qui est Alice Guy Blaché ?
Alice Guy, avant d'être Alice Guy Blaché, parce que c'est son nom de jeune fille, ensuite son nom de mariée. C'est une nana qui en veut, quoi. Elle est fille de libraire, on lui a appris qu'il faut travailler, qu'il faut se marier, bien sûr, mais que travailler, c'est important aussi. Mmh. Au début, elle fait de la dactylo, comme beaucoup de femmes faisaient à l'époque. Et un jour, on lui propose en fait d'être assistante d'un certain Léon Gaumont au comptoir général de la photographie.
Ouais.
Et en fait, en mars 1895, Gaumont est invité à une séance un peu spéciale à laquelle il fait venir avec lui Alice Guy. Et en fait, cette séance, c'est la première projection privée des Frères Lumière et donc de leur cinématographe. Effectivement, on connaît la première projection publique, donc payante, en décembre 1895, mais il y a eu 2-3 projections dans l'année avant pour le montrer aux autres industriels, effectivement, parce que c'était des inventeurs et ils avaient besoin en fait de montrer un peu leurs nouvelles inventions au reste des scientifiques. Et donc en mars 1995, Alice Guy découvre cet appareil formidable avec ces gens qui sortent de l'usine, voilà, toutes ces histoires qu'on connaît et dont on a entendu parler. Et quand elle retourne au bureau, on va dire, elle demande à son patron, moi ça m'amuse bien ce truc-là, est-ce que je peux faire des choses avec ? Vu que c'est aussi un gros industriel, en plus d'être un scientifique, Gaumont, lui, va recréer son propre cinématographe.
Donc il va créer sa propre caméra,
voilà,
véritablement,
ça,
pour faire des films.
C'est
pour concurrencer les Frères Lumière avec leur cinématographe.
Ouais. C'est ça, en fait. Gaumont, il crée le duo biographe-bioscope, donc l'un pour filmer, l'un pour projeter.
Ouais.
Et Alice Guy lui demande, moi j'aimerais bien pouvoir tester des choses avec. Et comme on a pu l'entendre, effectivement, Léon Gaumont lui a dit, si tu veux, tant que tu continues à faire ton taf.
Ouais. Après tes heures de bureau,
voilà,
après tes heures
ça,
de bureau, tu peux faire tes films si
pendant
tu veux.
Pendant les pauses déj, tu peux. Et donc, c'est comme ça qu'elle se retrouve en fait en 1896 à tourner le film. On va dire qu'elle va créer surtout la première féerie cinématographique, vu qu'effectivement c'est la Fée aux Choux, qui est une petite scénette où en fait une fée sort des bébés des choux. Voilà.
D'accord.
C'est très mignon, ça a été tourné dans le jardin de sa maison avec vraiment deux décors en carton-pâte.
Ça dure 52 secondes.
C'est très court, mais c'est vraiment très mignon, parce que c'était ça justement le but d'Alizy, c'était de faire une histoire qui fasse un peu rire. Et en fait, Gaumont, il sent qu'il a touché le bon filon et il va donc laisser à Alice Guy en fait, la direction de la création des films pour Gaumont pendant encore plusieurs années.
Parce que du coup, effectivement, voilà, rappelons-le, Gaumont, il vend donc des appareils, il vend juste des appareils, il dit, moi, je ne fais que vendre des appareils, c'est comme si quelqu'un, il vendait des caméras aujourd'hui, et les ventes, elles sont là, mais elles sont pas un peu au top, et du coup, Alizy propose d'offrir en cadeau, on va dire, avec l'appareil, achetez un appareil, vous avez des films avec. Et du coup, dans ces films-là, à l'opposé, on va dire, des vues lumière, des films un peu documentaires finalement à l'époque qui montraient juste la vie réelle.
C'est ce
Alice
qu'on
dit, elle va faire, comme tu l'as dit, une féerie, elle va faire quelque chose de scénarisé, on va dire, avec quelque chose qui n'existe pas, un truc mis en scène véritablement. Et tu l'as dit, c'est drôle et ça attise la curiosité. et ça marche. Les gens achètent les appareils de Gaumont parce qu'il y a les films d'Alesgui qui vont avec,
exactement,
etc., etc. Et comme tu l'as dit, Léon Gaumont va lui faire confiance pour devenir la chef des films Gaumont pendant 10-15 ans, c'est ça,
jusqu'en c'est 19... ça.
Quand Alesgui fait La Fée aux Choux en 1896,
ouais,
et elle devient par la même occasion la première femme réalisatrice, la première, oui, cinéaste au monde. Dès la seconde année, on va dire, officielle du cinéma, 1896, on a une femme réalisatrice.
C'est
là,
ça.
C'est pas rien du tout, quoi.
C'est pas rien du tout. C'est juste énorme, sachant qu'en plus, elle va rester seule pendant plusieurs années. Après, des réalisatrices femmes, on en aura aux États-Unis. Mais en France, elle va rester la seule pendant, je crois, une vingtaine d'années presque, ce qui n'est pas rien.
Pendant qu'elle est à la tête comme ça de Gaumont, pendant 10-15 ans, elle va faire... 500, 600, 700 films,
ouais,
hein,
plusieurs centaines de films,
ça
en fait.
Ça trouvait à la tête du pôle film de Gaumont, ouais, à 25 ans. Ça a été l'une des premières à expérimenter la couleur, l'une des premières à expérimenter, on en a parlé, le son,
ouais,
une des premières à expérimenter effectivement des techniques de cinéma. Enfin, à l'époque, tout le monde expérimentait un petit peu, mais du coup, à faire des gros plans, à faire des choses comme ça, à essayer de faire plein de choses un petit peu nouvelles.
C'est,
et elle était
elle
dans, ce wagon-là, on va dire, de gens qui créent, des vraies forces créatrices véritablement. Et on l'a dit, elle a fait des centaines et des centaines de films. Pour les gens qui nous regardent, à quoi ça ressemble le cinéma d'Alesgui, tout simplement? Déjà, peut-être avant de parler de la partie pas très cool, parlons de la partie très cool.
C'est vrai.
C'est quoi le cinéma d'Alesgui?
Le cinéma d'Alesgui, en fait, c'est un cinéma qui fait rire. C'est vraiment la petite blague, mais qu'on arrive à mettre à l'écran. C'est la bonne petite blague qui, visuellement, passe bien. Donc, La Fée aux Choux, avec cette fée grandiloquente qui sort des bébés comme ça, des choux.
C'est un film où t'as une femme enceinte qui va marcher dans la rue et piquer la bière de quelqu'un,
c'est
ou
ça,
piquer la sucette d'une enfant. Ou...
C'est ça, ce film-là,
très,
pareil,
très
il est très drôle. Il y a aussi, moi, un que je trouve vraiment génial, c'est Les Résultats du Féminisme.
Ah, formidable.
Qu'elle a tourné en 1906, où en fait, les rôles sont inversés. C'est que les femmes fument des cigares, jouent aux cartes, boivent de l'alcool, alors que les hommes sont à la cuisine, font le repassage, s'occupent des enfants. Et en fait, à un moment, ils vont commencer, les hommes, à dire « Non, mais ça, c'est pas normal. » Enfin, bon, ils le disent pas vu que c'est filmé. Et en fait, il va commencer à avoir une révolution de la part des hommes. En fait, vraiment, Alesgui, c'est quelqu'un d'engagé. Elle est tellement à un poste élevé qu'elle peut donner de la voix pour laisser la place justement aux autres femmes.
Et elle a un regard que personne n'a dans l'industrie, qui
c'est
un
ça.
Regard de femme dans un monde d'hommes.
Elle a quand même travaillé, elle a fait connaître Ferdinand Zeka,
qui est l'un
des premiers réalisateurs, Louis Feuillade, qui a créé donc les feuilletons,
les
vampires, Fantomas. Et c'est vrai que ces films sont teintés de beaucoup d'humour, de pas mal de féminisme, en tout cas pour l'époque, mais aussi elle voit les choses en très grand. C'est dès le tout début de sa carrière, elle voulait absolument faire La Vie du Christ, donc un film en trois tableaux, et elle arrivait à le faire donc en 1906. C'est un film de 33 minutes.
C'est phénoménal. Ouais.
Pour l'époque, c'est un blockbuster,
ouais,
vraiment. C'est un film gigantesque, sachant qu'il y a 25 scènes et que surtout, elle est arrivée à faire venir 300 figurants sur son plateau, ce qui est juste fou, elle qui a commencé dans l'arrière-cour de son jardin et qui maintenant se retrouve à faire des films gigantesques avec 300 figurants, avec les plus grands moyens possibles.
À l'époque, dans les studios Gaumont qui, si vous êtes curieux, se trouvaient en haut des buts de Chaumont, dans des espèces de grands bâtiments en verre qui laissaient du coup passer la lumière pour du coup effectivement aider à faire des films. Je vous invite à regarder, chers auditeurs, à quoi ressemblaient les studios Gaumont à l'époque. C'était un immense bâtiment où du coup les films d'Alesgui pouvaient se tourner en tout confort véritablement.
Vraiment, elle était très très populaire. Les films d'Alesgui, c'était parmi les films préférés de la population à l'époque.
De l'humour, de la féerie, de l'ambition. De l'ambition du coup, tu l'as dit, qui l'amène, qui va la pousser du coup à aller aux États-Unis, à fonder du coup, tu l'as dit, son studio
Solax,
qui va... qui est un studio qui marche bien, mine de rien, effectivement.
Qui marche très bien.
On est vraiment dans les années 1910-1912. Il faut se dire qu'aux États-Unis, le cinéma, ce n'est pas encore le cinéma hollywoodien. Ça reste un cinéma américain sur la côte Est. Elle a été pleine de succès en Europe et elle est encore pleine populaire et pleine de succès aux États-Unis aussi, quoi.
C'est ça. Et puis surtout, en fait, ce qui est génial, c'est qu'elle arrive à se renouveler dans des genres qu'elle ne connaît pas. C'est à peine arrivée, elle commence déjà à faire des drames, des westerns, des films sur la guerre civile. En 1912, elle a réalisé le premier film avec un cast entièrement afro-américain.
Ouais.
C'était la seule. Justement, elle défendait les femmes, elle défendait les personnes de couleur. C'était en fait vraiment une visionnaire ou juste quelqu'un sain d'esprit, je sais pas, il faut se remettre dans le contexte. Qu'elle a ouvert toutes les portes avant que ces portes se referment sur elle à tout jamais.
Mais du coup, on en a un petit peu parlé. Pour comment une visionnaire, à ce point-là, une des pionnières du cinéma français et international, a pu être oubliée comme ça par l'histoire du cinéma?
Malheureusement, dans ce monde d'hommes, It's a Man World, elle s'est bien fait avoir parce qu'elle a beau avoir été très haut, dès qu'en fait elle s'est mariée, on a commencé à la rattacher à son mari. Là, c'est fini. Il commence en fait à tout reprendre pour lui. Il lui vole ses films, il lui vole ses équipes. Déjà, en fait, en France, à partir du moment où on part aux États-Unis dans ces années-là, on est oublié. Déjà. Ça, sachant qu'effectivement, en France, toutes les personnes avec qui elle a travaillé, Feuillade, Zeka, commencent aussi à lui voler et même à changer le nom sur le générique. Ce n'étaient plus des films d'Alice Guy, mais des films de, voilà, d'autres personnes. En fait, on a commencé à lui voler son travail. Et elle n'avait pas beaucoup de ressources pour pouvoir en fait se battre là-dessus.
Oui, parce qu'à l'époque, le copyright, les noms faisaient des films qui ont disparu maintenant. Donc du coup, effectivement, au fil de temps, au fil des décennies, les films disparaissent ou les choses ne sont pas gravées dans le marbre. Donc effectivement, les noms sont changés.
Et... C'est ça. Et puis surtout, en fait, c'était aussi un manque de respect envers elle, du fait qu'elle était une femme en grande partie. Et donc en fait, à partir de ce moment-là, elle a dû vendre son studio qu'elle avait fait créer aussi un studio à Forlì, et elle est obligée de rentrer en France, donc en 1921. Sauf que plus personne l'attend, plus personne lui donne de travail. Elle retourne voir Gaumont, mais c'est trop tard.
Elle part aux États-Unis. Quand elle revient, c'est une autre industrie. Il y a d'autres personnes.
C'est ça. Et puis surtout, en fait, on l'a oubliée. Elle était tellement dissidente par rapport à l'époque qu'on a tout fait, en fait, pour la mettre sous le tapis.
Tu l'as dit, il y a eu ce problème de cette société qui est patriarcale, qui va effectivement mettre de côté les réussites féminines, même si elles sont immenses comme celle d'Alice Guy, pour du coup centrer sur effectivement un cinéma fait par des hommes pour des hommes. Et on est dans les débuts du cinéma, à une époque où les films disparaissent, les films perdus, les films se détériorent.
Il n'y a personne qui est là pour les garder, en fait, pour en faire des archives.
Et du coup, ces films ne sont pas vus. C'est-à-dire que La Fée des Choux, nous, on le voit parce que le film a traversé 125 ans, ce qui est phénoménal, rappelons-le, pour se retrouver sur YouTube aujourd'hui. Mais du coup, à l'époque, quand il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait pas de salle de cinéma forcément dédiée, on ne repassait pas des films. Donc le nom d'Alice Guy, personne ne le voyait. Et du coup, ça couplé à toute une industrie masculine qui ne l'engage pas, ne la reprend pas quand elle revient en France dans les années 20, ça fait que du coup, elle est oubliée. Et elle va ressurgir de l'histoire. Il y a des critiques de cinéma qui au début l'ont mis de côté, et puis il y a d'autres critiques qui la remettent un peu sous le feu des projecteurs. Toi, tu l'as dit, elle va elle aussi être, on va dire, être proactive et chercher de ses films et essayer de vendre ses mémoires qui ne seront pas achetées de son vivant, malheureusement.
Oui.
Dans les années 50-60, elle va revenir un petit peu sur le devant de la scène. Elle va avoir une Légion d'honneur en 58, un hommage à la Cinémathèque en 57. Donc vers la fin de sa vie, on va dire, elle va retrouver un petit peu des honneurs qu'elle aurait dû avoir toute sa vie avant.
En fait, j'ai aussi l'impression qu'en France, elle a été beaucoup oubliée, mais qu'aux États-Unis, elle a peut-être, vu qu'elle a quand même beaucoup marqué le cinéma avec la Solax, elle a aussi une reconnaissance. C'est qu'elle a eu deux carrières au final, la française et l'américaine. Et aux États-Unis, en fait, en parallèle de ça, elle a aussi eu... beaucoup lui doivent justement, lui font des hommages encore. Et donc, effectivement, ça arrivait plutôt en fin de vie. Mais c'était sur deux territoires à la fois. C'est vrai que de son vivant, malheureusement, en fait, c'est bête à dire, mais c'est à partir du moment où elle a été mariée que pour elle, en fait, c'était quasiment fini, en fait.
Il a fallu attendre ces dernières années, donc on parle des années 50. Il faut savoir qu'Alice Guy, du coup, meurt en 68 à 94 ans. Après une vie folle, effectivement, révolutionner le cinéma et plein d'autres choses.
Se dire qu'en fait, en elle, il y a toute l'histoire du cinéma, il y a toute la mémoire du cinéma, et c'est vraiment dommage, en fait, qu'on n'ait pas, on lui ait pas rendu hommage plus tôt, qu'elle n'ait pas eu sa place vraiment dans le panthéon du cinéma à l'époque, parce que vraiment, en fait, elle est à l'origine de quasiment tout.
Plein de choses,
tout simplement.
Ouais.
C'est vraiment... Il faudrait la mettre au même pied d'égalité que des Frères Lumière, du Georges Méliès. Enfin,
mais nous la mettons au même pied d'égalité. Ouais, nous, aujourd'hui, nous la mettons sur un pied d'égalité avec, effectivement, toutes ces personnes-là. Et moi, ce que je trouve assez phénoménal, c'est qu'elle a réussi à revenir dans l'histoire du cinéma grâce à des passionnés de cinéma qui ont dit « Attendez, cette personne-là, elle a fait des choses importantes, pourquoi elle n'est pas dans ce magazine, dans ce livre-là » Et des gens qui aimaient le cinéma. Et c'est vrai que c'est aussi ce qu'on fait, nous, à Année Lumière, c'est que la mémoire à l'histoire du cinéma est importante et qu'on essaye de la faire vivre en discutant tous les jours, que ce soit nous dans Année Lumière en podcast, que ce soit toi sur ta chaîne YouTube, l'Année du cinéma, via tes vidéos. Et c'est ça aussi qui fait vivre le cinéma. Il faut faire vivre, voir ces films-là. Alors,
faut pas les oublier.
Exactement. Pour conclure ce thème sur Alice Guy, j'avais envie de faire un petit espace recommandation.
Ah oui.
Alors bien sûr, on vous recommande alors les mémoires de l'autobiographie d'Alice Guy qui est sortie en 76. Il y a deux documentaires qui sont assez formidables sur Alice Guy. Un qui s'appelle Le Jardin oublié de 1995 de Marquise Lepage. Et un autre qui s'appelle Be Natural, oui, de Pamela Green, qui est sorti en 2018.
Je vous le conseille, mais vraiment, en fait, si juste vous voulez vous intéresser à l'histoire du cinéma en général.
Oui. C'est plus qu'Alice Guy, ça parle d'Alice Guy.
Exactement.
Aussi, mais aussi.
De... Et c'est un magnifique documentaire. Et surtout, en fait, c'est pas un documentaire comme on pourrait voir comme, dans une forme normale. C'est qu'à l'intérieur, il y a une enquête, ouais, pour retrouver justement des films d'Alice Guy. Et vraiment, je... Bon, je suis peut-être trop émotive, mais j'étais en pleurs tout du long,
ah,
parce que
formidable.
Vraiment, c'est beau, c'est une belle histoire, et ça permet vraiment de lui rendre ses lettres de noblesse. Donc vraiment, Be Natural, c'est un énorme coup de cœur. C'était, ouais, un de mes films préférés de l'année dernière, de 2020, pour dire à quel point, ouais, je vous le conseille mille fois.
Et c'est là que tu vois tout le pouvoir de passionnés de cinéma,
ouais,
qui vont eux de même faire des recherches, retrouver des bobines, et du coup vont retrouver tout ce matériel-là et vont permettre du coup de sortir des films comme ça qui sont extrêmement importants.
Ouais.
Est-ce que toi, tu avais des recommandations en plus à compléter ou des choses à dire pour compléter ce thème sur Alice Guy ?
En reco, j'en ai une, que c'est un petit court-métrage qui a été, et là on peut le souligner, qui a été réalisé par Golden Moustache,
oh,
sur Alice Guy.
Formidable.
Qui s'appelle La fabuleuse histoire méconnue d'Alice Guy et qui a été réalisé par Audgoni Goubert, qui est très impliqué justement dans la cause féministe et qui est très intéressé par Alice Guy. Elle a même fait un podcast là-dessus. J'aime beaucoup ce petit court-métrage. Et surtout, en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire, c'est que là, depuis 2017, il y a un prix Alice Guy qui a été créé, qui récompense, en fait, une femme réalisatrice de films française. Mmh. Et donc, en 2020, c'est Mounia Medour qui l'a eu pour Papicha. Et je trouve ça beau, en fait, qu'une femme comme Alice Guy, en tout cas, ait un prix à son nom. Mmh. Et surtout, qu'il y ait des cérémonies où, dans laquelle on la commémore. Parce que c'était quelqu'un d'important. Et si ça peut permettre aussi à des femmes qui veulent devenir réalisatrices de se donner de l'espoir, de se dire que même en 1895, à l'époque...
À 23 ans.
À 23 ans, où c'était les hommes qui avaient le droit de tout faire, on a une femme qui a créé le cinéma. Franchement, je pense que c'est le meilleur modèle du monde.
Je ne vois pas comment conclure mieux ce second thème sur Alice Guy. Merci beaucoup. Voilà qui conclut notre second et dernier thème de cette émission consacrée à l'année 1897. On vient de parler d'Alice Guy. Vous êtes toujours en train d'écouter Année Lumière. Et on va doucement glisser vers notre conclusion avec nos petites recommandations finales. Eh bien, on est parti. On a parlé du Bazar de la Charité, on a parlé d'Alice Guy à l'instant, on a parlé des débuts des studios Gaumont. On ne pouvait pas vous quitter sans... Vous donner quelques petites recommandations de films ou de choses autour de cette année 1897. Vous rappelez que ces films de 1897 sont tous dans le domaine public, sont visibles, ils peuvent être visibles sur Internet notamment, donc on peut les retrouver sur YouTube ou sur archive.org,
oui,
ou des choses comme ça. C'est toi qui aimes bien le cinéma de ces premiers temps-là, est-ce que tu avais des sites ou des livres ou des films que tu pourrais conseiller pour donner envie aux gens de poursuivre notre discussion?
En vrai, si on veut parler d'histoire du cinéma, il y a un seul site sur lequel il faut aller pour en savoir plus. C'est celui de la Cinémathèque française. En fait, sur le site de la Cinémathèque française, il y a énormément de conférences. Mmh. C'est sur tous les sujets. Il me semble justement qu'il y en a aussi sur Alice Guy. Vraiment, en fait, si vous voulez vous intéresser à l'histoire du cinéma et à kiffer le cinéma... le sud de la Cinémathèque française et surtout leur nouvelle plateforme aussi Henri,
oui,
qu'ils ont créé pendant le premier confinement, sur laquelle ils passent en fait des films restaurés, donc pour découvrir justement autre chose que le cinéma de ces, on va dire, 30-40
oui,
dernières années, pour voir un petit peu plus loin.
C'est
que
une plateforme
ce
de streaming gratuit où on peut voir effectivement des films restaurés anciens. Et
c'est vraiment super parce que c'est une belle initiative. C'est pas parce que c'est vieux que c'est pas bien. J'essaye de dire ça à ma grand-mère tous les jours, mais vraiment, c'est pareil pour le cinéma, en fait.
Et moi, pour compléter effectivement ce que tu nous recommandes là, moi, j'aimerais conseiller les films de George Albert Smith, qui est donc un des premiers cinéastes, lui, britannique, pour le coup. Et en 97, George Albert Smith, il fait deux films qui s'appellent The X-Rays, Les rayons X, et Making Sausage, donc Faire des saucisses, qui sont deux films... très drôle, mais très très comique. Un où il y a quelqu'un qui a une caméra et subitement il filme des gens en costume et subitement ces gens-là se transforment en squelettes. Donc il faut imaginer qu'en 1897, évidemment, ils n'ont pas mis des vrais squelettes, mais ils mettent des gens avec,
oui,
des faux os et des faux fémurs, etc., etc. Et le deuxième, Making Sausage, c'est un film d'une minute où il y a des bouchers qui prennent des chats, donc des vrais chats vivants, et qui les mettent dans un broyeur et qui en sortent des saucisses. Alors évidemment, il y a un trucage, évidemment, les chats ne sont pas changés en saucisses. Mais du coup, ce qui est drôle, c'est que tu vois les acteurs mettre des chats dans une espèce d'entonnoir dans une boîte, et il en sort des saucisses, mais du coup, en même temps, il y a des chats qui, eux, ressortent par le haut parce que du coup, ils n'allaient pas rester dans la boîte sans rien faire. Donc c'est très très drôle. Making Sausage de George Albert Smith, vous le trouvez sur YouTube, c'est très très drôle, et c'est ma petite recommandation pour l'année 1897. Voilà qui conclut cet épisode d'Année Lumière consacré donc à l'année 1897. On a parlé de beaucoup de choses. Dans cette émission, on a évoqué les premiers films, ses premières vues cinématographiques. On a évoqué la tragédie du bazar de la Charité, la société Gaumont, et bien évidemment les vies et les films d'Alice Guy. Nous voici arrivés à la fin de cette émission. J'aimerais à nouveau remercier mon invitée Mélanie Touhaut.
Merci à toi.
Merci beaucoup Mélanie. Merci également aux partenaires de l'émission, le magazine Cinéma Teaser et Tsugi Radio qui nous accueille ici dans son studio de la Villette à Paris. Un dernier grand merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager cet épisode et cette émission. Votre soutien et vos retours me font toujours immensément plaisir. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous le mois prochain pour un nouvel Année Lumière. Salut, salut !